Le Seigneur, il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Peut-être un jour aurai-je l'occasion de vous dire comment sa bonté m'a poussé à la repentance. Car j'étais à 1000 lieues d'imaginer qu'un jour je serais dans une église avec un micro pour annoncer l'évangile. Parce que je suis né dans une famille musulmane, pratiquante, à fond, accueillant toutes sortes d'érudits musulmans. Mais béni soit Dieu, la lumière un jour a jailli. Elle a chassé mes ténèbres. Je suis heureux d'être là avec vous ce matin. Que Dieu soit béni. Il est merveilleux, plus que nous pouvons le dire. Sa parole nous a été laissée, conservée jusqu'à aujourd'hui pour notre instruction, notre enseignement. C'est elle qui nous permet de connaître les choses cachées aux sages et aux intelligents. Nous savons par cette parole que le monde entier gît sous la puissance du malin, le diable, l'adversaire de nos âmes. Cette même parole, elle nous enseigne que beaucoup, plusieurs, ne voient pas encore la gloire de Dieu resplendir sur la face de Jésus le Christ, le Sauveur. Parce que pour certains, ils sont aveuglés. Et l'apôtre dit que pour eux, il faut que le voile soit ôté et il ne peut l'être que par la conversion à Jésus-Christ. La Bible nous dit également que le monde est rempli d'hommes et de femmes, jeunes gens et jeunes filles, qui sont enfermés dans le mensonge parce que le diable leur fait croire le mensonge et ils préfèrent le mensonge à la vérité. Donc, comprenez-vous maintenant votre privilège, notre privilège ? Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous ne sommes plus sous la puissance du diable. Et nous ne sommes plus, mes amis, avec un voile sur nos yeux. Nous voyons clair. Alléluia. Béni soit Dieu. Depuis plusieurs années pour certains d'entre vous, depuis quelques temps seulement pour d'autres, depuis quelques décennies maintenant pour moi. Ben oui, ça va faire... où ça fait 40 ans l'année et le mois de juin dernier que mes yeux ont été ouverts sur la gloire de Jésus. Alléluia. Que je l'ai reconnu et confessé comme mon Seigneur, mon Sauveur, le Fils du Dieu vivant et vrai. Que son nom soit béni. Alléluia. Et cette parole qu'il a donnée demeure véritable. Si le Fils vous affranchit, vous deviendrez, vous serez réellement libre. Et pour que vous et moi, nous vivions dans cette liberté totale, Jésus nous enseigne que c'est par sa parole. Car si vous gardez ma parole, alors vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra réellement libre. Mais malheureusement, force est de constater que certains chrétiens, des affranchis comme vous et moi, des libérés comme vous et moi, alléluia, finissent quand même par se retrouver dans des prisons, dans des sphères, dans des zones dans lesquelles ils restent enfermés. Quel dommage! Alors que c'est la véritable liberté que nous avons en Jésus-Christ. Alors ce matin, le but de la prédication, le message que j'ai dans le cœur, et je bénis Dieu parce qu'il m'a réconforté, m'a donné plus d'assurance par rapport à beaucoup de choses que j'ai déjà entendues pendant le culte, par la bouche de votre pasteur et par des chants et d'autres personnes encore qui ont parlé. Que Dieu veut vraiment vous aider, nous aider, chacun pour sa part, à sortir. Ouvrez la porte de la zone dans laquelle vous êtes enfermé. Ouvrez la porte, sortez, car c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Un récit dans l'évangile selon Jean au chapitre 11 va nous servir de base pour notre méditation. Nous allons y découvrir ces vérités qui vont nous aider ce matin à oser ouvrir la porte, à sortir enfin. Alléluia. Et pour ceux qui ne sont pas enfermés, béni soit Dieu, ne laissez jamais, si un jour vous pénétrez dans ces zones-là, ne laissez jamais la porte se refermer derrière vous. Ouvrez-la, car Dieu veut votre liberté. Amen. C'est à l'occasion d'un drame. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ?» Allons-y au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait point mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Oui, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Il vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aime. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Quel beau récit. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire que ce récit est un fait authentique. Ce n'est pas une légende ni un conte que l'on raconte pour faire endormir les enfants le soir. Mais ce sont des faits réels, authentiques et authentifiés. Car plusieurs siècles après, eh bien, nous avons vu des morts ressuscités au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons donc que oui, c'est vrai, ce qui est écrit ici, c'est réellement produit. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ce qui tu crois être impossible de voir. Tu verras ce que les yeux n'ont point vu. Tu verras ce que tu n'avais jamais espéré voir. Jésus nous dit encore aujourd'hui, c'est par la foi en moi. Croyez en Dieu. Croyez en moi, dit Jésus-Christ, alors nous voulons continuer à lui faire entièrement confiance. À lui soit la gloire pour l'éternité. Et ce matin, prenons garde que cette foi qu'il a mise en nous, ce potentiel qui désormais est un dépôt garanti par le Saint-Esprit qui est avec chacun de nous et en chacun, eh bien, veut nous aider à progresser, à sortir eh bien, de ce qui nous empêche de progresser et d'arriver, de parvenir dans l'accomplissement de ce que Dieu a préparé pour nous. Car Jésus a dit à l'avance eh bien, que cette mort, cette maladie qui allait ensuite entraîner la mort, n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire du Fils de Dieu. C'était pour la gloire de Dieu au travers de ce que son Fils allait accomplir. Que Dieu soit béni. Mais voyez-vous, bien-aimés, cette vérité, cette déclaration de Jésus-Christ va eh bien, être confrontée à plusieurs réticences. Et ce sont ces réticences-là que j'ai appelées les sphères. Ou les zones dans lesquelles eh bien, on risque de se laisser enfermer. Et elles deviennent ces zones eh bien, des pièges et souvent des prisons. Le premier que j'ai identifié ici, c'est la peur, la crainte. Car voici, lorsque Jésus annonce à ses disciples, eh bien, je vais retourner en Judée, je vais retourner eh bien, là où est Lazare, pour le ramener à l'existence. Les disciples disaient, mais non Seigneur, on ne peut pas retourner, ne prends pas le risque d'aller en Judée, car là-bas les Juifs ont failli te lapider, donc n'y retournons pas. Ils ont voulu, eh bien, par leur crainte, empêcher l'accomplissement de la gloire de Dieu. Ah, les Juifs cherchaient à te faire périr. Donc, ne retournons pas en Judée. Mes amis, c'est cela aussi le piège dans lequel beaucoup de chrétiens restent enfermés. La peur. La peur, eh bien, du qu'en dira-t-on, empêche plusieurs d'oser ouvrir la bouche pour dire que nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Et pourtant, nous savons que c'est la vérité. Mais la crainte, ah, mais tu sais, si tu le dis, madame va se moquer de toi. Hein? Ah, si tu le dis, désormais, tu seras mise de côté. Hein? Si tu oses dire ces choses-là, eh bien, vois-tu que tu es ringarde ou ringard. Bah, n'ose pas parler de ta foi. C'est dans la sphère privée. C'est pour toi et toi seul. Ne le dis pas aux autres. Et si j'ose, ah ben, si jamais tu oses, tu prends le risque de... Alors, ainsi, insidieusement, cette crainte vient nous fermer la bouche et on n'ose plus annoncer la vérité. On n'ose plus dire au monde qu'il a besoin de Jésus-Christ le Sauveur. On n'ose plus partager sa foi et plusieurs meurent loin de la face de Dieu parce qu'ils n'ont pas entendu que Dieu avait envoyé un puissant Sauveur en la personne de Jésus. C'est pourquoi ce matin, nous voulons faire et nous voulons dire comme Jésus. Allons-y. Que sont les Juifs et que peuvent-ils me faire? Ne craignez pas, mes amis, pour votre vie. Qu'est-ce que les hommes peuvent vous faire? Qui sera contre nous si Dieu est avec nous? Qui pourra nous taire? Si ce n'est pas la peur de nous, que nous-mêmes nous acceptons, qui pourra nous faire taire? Rappelez-vous, mes amis, ce que Paul et Silas ont vécu à Philippe. On a voulu les faire taire en les jetant au fond d'un cachot, en mettant eh bien, des fers à leurs pieds, à leurs bras, à leurs mains pour dire, voilà, eh bien, maintenant, ils ne se lèveront plus pour dire ce qu'ils ont annoncé et ce qu'ils ont fait à Philippe, car une servante avait été délivrée des démons qui la possédaient. Elle a été libérée par la puissance du nom de Jésus. Elle a été libérée par la puissance de l'Évangile, puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Mais voilà qu'ils ont été jetés en prison. Ils ont été terrorisés, intimidés, jetés dans une prison, après avoir reçu des coups de fouet. Mais la Bible nous dit qu'ils n'ont pas cédé à la crainte. En plein milieu de la nuit, les prisonniers les entendaient louer, chanter à la gloire de Dieu. Alléluia. Et vous connaissez la suite? Vous connaissez la suite? Mes frères et sœurs, j'aimerais vous encourager désormais à ne plus vous taire. N'ayez pas peur. Je me souviens de cette sœur d'origine antillaise. Dans la région parisienne, nous avons servi le Seigneur. Ah, là-bas, à l'hôpital où elle travaillait, elle était, comme on dit, technicienne de surface. Mais qu'est-ce qu'elle était efficace. Quand tu vas à l'hôpital, moi, quand je dis, oh, ben, j'ai de gloire à Dieu pour le travail de notre sœur, parce que tout était nickel, tout brillait. Et là-bas, mes amis, tous les jours à son travail, elle écoute, elle chante les cantiques du Seigneur Jésus et elle parle de Jésus à tous. Ses collègues, comme les infirmiers, les médecins, les aides-soignantes, tout le monde, eh bien, connaissait notre sœur. Pourquoi? Parce que tout le monde savait qu'elle croyait en Jésus-Christ et qu'elle parlait de Jésus-Christ. Parce que Jésus l'avait sortie d'une situation de détresse extrême, dans un foyer de violence. Elle a trouvé le salut en Jésus. Alors, elle parlait de Jésus à tous. Et même au docteur. Et même, eh bien, à la responsable de son secteur, le médecin-chef. Et vous savez quoi? Certains se moquaient d'elle. D'autres la méprisaient. Mais voici qu'un jour, je reçois un coup de fil. Je suis Madame Untel. Monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez me recevoir en entretien? Ah oui, bien sûr, madame, nous recevons quiconque veut. Venez à l'église. Elle vient. Vous savez ce qu'elle me dit? Madame, une telle est bien de votre église? Je dis oui. Alors, ne lui dites jamais ce que je vais vous confier. Je dis d'accord. Vous pouvez être sûr, ce sera comme dans une tombe. En tout cas, elle n'entendra jamais de ma bouche. Si je viens vous voir, c'est parce que je veux que vous priez pour moi. Parce que Madame une telle, un jour, je l'ai fait entrer dans mon bureau pour prier pour moi, pour une situation inextricable. Elle a prié pour moi en toute simplicité. Et la situation s'est débloquée. Mais ne le dites surtout pas, ne le dites pas. Je dis, bien sûr, madame, je ne le dirai pas. Pour qu'elle ne prenne pas le melon. Béni soit Dieu. La crainte, mes amis, fait qu'on n'ose pas donner l'occasion de voir la gloire de Dieu. Souvenez-vous, mes amis, de la petite fille déportée pour être esclave au service de la femme, du grand Naaman, le général, par qui Dieu avait donné la victoire sur Israël. Vous vous rappelez? Mais il est devenu lépreux. Et la Bible nous dit, une petite fille à son service va oser. Elle ne va pas laisser la timidité la paralyser. Elle ne va pas craindre de dire que son Dieu peut guérir le général Naaman, le païen. Elle a osé. Et vous connaissez le résultat? Le général Naaman dira, il n'y a de Dieu qu'en Israël seul. Alléluia! Mes amis, ne laissons pas les opportunités passer à cause de la crainte. Non, surtout ne dis rien. Non, ne parle pas. Puisque le temps passe, je ne vais pas vous donner d'autres exemples, ce serait tellement nombreux. Mais regardons le deuxième obstacle. Ce sont des réticences qui sont là, comme celles que les disciples ont manifestées en disant à Jésus, « Ah non, ne retourne pas à Jérusalem parce que tu risques. » Si tu ne risques pas, qu'est-ce qu'on dit dans ce monde? Même le monde qui est fou, que dit le monde qui est fou? Dans sa folie, le monde dit, qui ne risque rien. Même le monde le dit. Or, Jésus nous a dit, eh bien, n'ayez point honte de l'évangile, allez le proclamer à toutes les nations, parce que c'est la vérité qui sauve, c'est la vérité qui libère, c'est la vérité du plan de Dieu pour l'humanité. Que Dieu soit béni. Ma Bible se fait vieille. Ce n'est pas pour vous dire de m'en acheter une nouvelle, hein. Quand le Seigneur Jésus arrive, parce que lui, il n'est pas dans la crainte, la Bible nous dit, voici, Lazare était déjà mort, et cela faisait 4 jours qu'il avait été enseveli. Et que disent les sœurs, Marthe et Marie? Bon, alors, et je vais vous rappeler ce qu'elles ont dit, toutes les deux. Seigneur, si tu avais été ici, bon, dans le vieux français, c'est dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Voilà également une réticence qui peut devenir une prison d'enfermement. C'est dans nos pensées que cela se passe. Elles pensent que Jésus est venu, mais que Jésus est venu trop tard, que ça ne sert plus à rien qu'il soit venu maintenant. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas enfermer dans les pensées qui nous viennent pour faire obstacle à la foi. Dieu veut que vous et moi, nous ayons cette foi ferme, qui ne souffre pas de nos conceptions, de nos idées, de nos pensées. Si le Fils vous affranchit, vous deviendrez réellement libre. Il veut vous affranchir au niveau de vos pensées. Nous pensons que, je pensais que, on pense que, et tout cela fait que, au lieu de dire, je pensais, mais je crois, on reste dans je pensais que. Comme ces deux disciples qui étaient tout tristes et tout malheureux en s'éloignant de Jérusalem après la résurrection de Jésus-Christ qui avait été crucifié. La Bible dit que Jésus vient les accompagner dans leur marche, dans leur voyage. Quel triste voyage! Car quelle tristesse dans leur cœur, dans leur âme, dans leur pensée. Que disent-ils à Jésus? Cet étranger qu'ils ne connaissent pas encore, qu'ils ne reconnaissent pas encore et qui marche avec eux, mais dont les paroles font tellement du bien à leur âme. Ils disent, mais es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé à Jésus-Christ, que nous croyons tous, parce qu'il était tellement puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, que nous pensions tous que c'était lui le Messie qui allait rétablir le royaume d'Israël. Mais voilà, ils l'ont arrêté. Il n'a donc pas établi le royaume d'Israël. Alors, leurs pensées étaient confuses. Voilà pourquoi ils étaient tout tristes et empêchés de le reconnaître. Parce qu'ils sont emprisonnés dans cette pensée que si Jésus était le Messie, eh bien, avant de mourir, il aurait rétabli le royaume d'Israël. Et d'ailleurs, ils ne concevaient pas la mort de Jésus, le Messie. Oh, mes bien-aimés, affranchissons-nous de nos pensées. Et pas seulement les pensées d'aujourd'hui, mais surtout aussi des pensées, des choses d'hier, le souvenir des choses négatives, le souvenir de tout ce qu'on a connu, qu'on a subi en mal, ce souvenir qui nous remplit de tristesse encore aujourd'hui et bien des fois font du tort à notre âme. Beaucoup de personnes sont dépendantes psychiquement. Pourquoi? Parce qu'elles sont enfermées dans ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, dans le passé. Ils n'arrivent pas à sortir. C'est passé, certes, mais le souvenir est toujours là. Et ça gâche tout dans leur existence. Ah, si tu avais été là. Mais puisque tu n'étais pas là, eh bien la chose est arrivée. Et depuis qu'elle est arrivée, eh bien ce sont les pleurs, ce sont les larmes, c'est la tristesse, c'est la mort. Tu pleures et tu pleures sur toi-même. Tu pleures et tu pleures sur les incidents. Tu pleures et tu pleures sur les drames. Tu pleures, tu n'arrives pas à faire le deuil eh bien, de ce qui t'est arrivé. Et tu n'arrives pas. Et alors, à cause de cela, ta foi, elle est comme paralysée. Il y en a qui vivent toujours dans le négatif. Même quand on dit le soleil brille, le ciel est bleu, ils disent, mais il ne fait pas si beau aujourd'hui. Alors, on n'est pas là pour jeter la pierre à quiconque. Mais c'est pour te dire, réjouis-toi parce que le Maître est là. Réjouis-toi parce que le Seigneur est arrivé. Réjouis-toi parce que quand le Seigneur est là, eh bien, c'est la victoire qui est là. Alléluia, que son nom soit béni. Il y a cette troisième sphère qui est un peu en rapport avec nos pensées, mais c'est pire encore. C'est la prison de nos raisonnements. La foi n'est pas contre la raison, mais souvent la raison empêche la foi. Ça, vous le savez. À force de raisonner et de raisonnement, on finit par se laisser enfermer dans le doute. Dieu a dit, mais Dieu a-t-il réellement dit? Le tentateur, vous avez entendu sa voix? Vous l'avez reconnu? Car le Seigneur dit ici à Marthe, vous vous rappelez, c'est Marthe elle-même qui confesse une vérité extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, verset 22, « Maintenant même, je sais que tout ce que toi, tu demanderas au Père, Dieu le fera. » C'est pas beau ça, comme confession? Quelle belle confession de foi! Mais regardez la suite. Alors bon, d'accord, ton frère va ressusciter. Vous pensez qu'elle va sauter d'enthousiasme et de joie? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Ben oui, je sais qu'il le ressuscitera, mais seulement ce n'est plus pour maintenant, ce sera la résurrection des morts. Mes amis, puissions-nous être sages et nous laisser convaincre que ce ne sont pas nos raisonnements qui ont raison, mais c'est la parole de Dieu qui a raison. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la parole de Dieu qui doit être reçue et crue. Pas nos raisonnements, pas les raisonnements des hommes. Que de raisonnements. L'apôtre Jacques, qui connaît bien l'être humain, nous a écrit dans son épître, « Ne vous contentez pas d'écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique, en ne vous trompant pas par vos... » Et il qualifie bien nos raisonnements, nos faux raisonnements. Parce qu'ils sont faux, mes bien-aimés, face à la vérité de Dieu. Nos raisonnements sont faux face à la réalité spirituelle. Nos raisonnements sont faux face à Dieu et à son pouvoir extraordinaire et illimité. Oh, que Dieu, dans sa grâce, nous aide donc à sortir de nos raisonnements qui veulent nous empêcher de laisser Dieu agir et faire son œuvre. Le temps passe. Excusez-moi, je vais maintenant aller au quatrième. Quand Jésus pleure, méditez cela, c'est très intéressant, oh, c'est tellement riche. Mais on n'aura pas le temps d'en parler. Eh bien, plusieurs disent, mais cet homme qui a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles, pourquoi n'a-t-il pas fait en sorte que son ami Lazare, pour qui maintenant il pleure, ne soit pas mort? Donc, malgré son pouvoir, il n'a pas pu empêcher la mort de Lazare, son ami. Et moi, j'appelle ça la prison de nos impossibilités. La prison qui nous enferme et qui s'appelle « c'est impossible ». Et pourtant, si le peuple de Dieu pouvait mettre en pratique cet adage Cocorico, vous connaissez? Impossible? Ah ben voilà. Si seulement on pouvait le mettre, non pas dans la bouche du coq, mais nous le mettre en vérité, ce serait bien. Hein? Bon, enfin, excusez-moi. C'est... Mes amis, Dieu veut que nous sachions que Jésus lui-même nous dit et nous l'atteste. Si vous croyez, rien ne vous serait impossible. Pourquoi? Parce que votre foi est dans le Dieu de l'impossible. Tout ce qu'il fait ou tout ce qu'il ne fait pas, eh bien, c'est dans le domaine de son pouvoir illimité. S'il n'empêche pas, c'est parce qu'il permet que la chose arrive. Et il sait pour quelles raisons il permet qu'elle arrive. C'est ce que l'apôtre nous explique en disant, « Vous savez, mes frères et sœurs, du reste, sachez-le, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. » Afin que nous comprenions, eh bien, que ce n'est pas parce qu'il a permis que cela arrive qu'il était incapable de l'empêcher. Faisons-lui confiance, totalement. Il est le Dieu de l'impossible. Que son nom soit béni. Amen. Jésus va l'enseigner à ses disciples Lorsque voyant une foule immense venir vers lui, il va se tourner vers Philippe. Il dit, écoute Philippe, dis-moi, où achèterons-nous du pain pour que toute cette foule ait à manger? Et l'évangile de Jean, chapitre 6, précise, il disait cela, sachant bien ce qu'il allait faire. C'était pour voir comment Philippe allait réagir. Est-ce qu'il va rester dans l'impossible ou il va rester dans le possible? Parce que Jésus est là. Dernière sphère, la cinquième, parce que le temps passe. Jésus dit, ôtez la pierre de la tombe. Et qu'est-ce qu'eux, ils disent? Seigneur, il sent déjà. Donc, surtout, ne fais pas ça. Pas ça, Seigneur. Si on ôte la pierre, l'atmosphère va changer. Ça fait 4 jours. Mais Jésus dit, ne t'ai-je pas déjà dit, et je te le répète, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc Jésus veut que nous comprenions, eh bien, que par la foi, nous devons être sûrs et certains que Dieu est plus grand que tous nos ennemis. Que Dieu est au-dessus de toutes nos incapacités et nos impossibilités. Que son nom soit béni. Amen. Il ne savait pas que Jésus était la résurrection et la vie. Il ne savait pas que Jésus avait le pouvoir sur la mort. Mais Jésus va le démontrer. Que son nom soit béni. Amen. Alors désormais, osez la foi et sortez de toutes ces sphères dans lesquelles vous étiez enfermés. Que Dieu vous bénisse.